aujourd'hui pour évoquer un Rimbaud politique. Nous sommes en votre compagnie, Frédéric Thomas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes politiste, chercheur au CETRI à Louvain-la-Neuve. Le CETRI qui est un centre d'études, de documentation et d'éducation sur le développement et les rapports Nord-Sud. Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Dissidence qui paraît aux éditions du Bord de l'Eau et qui traite de thèmes comme ceux de l'extrême gauche saisie par les lettres, de l'anarchisme, de la révolution. Et Rimbaud Révolution, c'est justement le titre de votre dernier ouvrage qui est apparu il y a tout juste un an aux éditions de L'Échappée. Et puis aux éditions Aden, vous avez aussi publié une anthologie des poèmes politiques de Rimbaud, ce poème Rimbaud politique et même ce Rimbaud bolchévique tel que nous le décrivait son ami Ernest Delahaye dans ses souvenirs familiers. C'est même comme ça que vous commencez en évoquant, c'est le titre d'ailleurs de votre texte, du début de votre texte, Rimbaud bolchévique. On imagine qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce titre-là.
Oui, bien sûr, c'est à la fois un détournement et une provocation. C'était pour donner à voir la manière dont, dans sortir de la Première Guerre mondiale, certains poètes ont pu lire et comprendre Rimbaud en le replaçant dans le contexte des années 20 en France.
Alors, il n'a pas été un militant ni un théoricien politique. Rimbaud, c'est peut-être la première chose qu'il faut dire.
Oui, bien sûr, quand je parle de poèmes politiques ou de Rimbaud Révolution, je ne fais pas abstraction du fait que Rimbaud est avant tout un poète, qu'il ne s'agit pas de décoder ses poèmes sous une lecture politique, mais de bien d'entendre ce qu'il entendait par poésie. Je pense qu'il y a dans Rimbaud demandait à la poésie plus et autre chose que la littérature. Et dans ce qu'il demandait à la poésie, notamment se changer la vie, c'est de se réinventer l'amour, cette révolution de mœurs, attaquer le temps, il y a quelque chose de profondément révolutionnaire qui était en lien avec des aspects politiques.
De profondément anarchiste.
Oui, en partie anarchiste. C'est difficile de situer Rimbaud dans les différents courants politiques. Je pense que le plus simple, c'est de le situer dans ce qui était à l'époque le terme générique de l'ensemble des mouvements d'opposition, qu'allaient des républicains, démocrates aux utopistes, en passant par les socialistes, les proudhoniens, et ce qu'on appelait la sociale. Donc c'est dans ce magma-là qu'il se situe et dans lequel il évolue.
Alors, il faut imaginer que Rimbaud, comme il s'est arrêté d'écrire très jeune, à 20 ans, toutes les indications qu'on a sur une éventuelle vision politique sont des indications qu'on doit trouver dans ces textes et qui sont donc fatalement, elles sont, et c'est tout l'objet de cette émission d'aujourd'hui, directement politiques, ce sont des notations qui sont des notations de jeunesse. Est-ce que c'est important pour vous de ne pas connaître, après l'évolution politique de la pensée politique de Rimbaud, est-ce que le fait que tout cela était écrit très jeune, est-ce que ça entre en ligne de compte ?
Ça rentre en ligne de compte, mais il ne faut pas les réduire. Je pense que ce qui est l'enjeu plutôt de ces connotations politiques, elles sont toujours inscrites dans un ensemble d'autres connotations de poétiques, même métaphysiques. Quand je pense au poème qui, d'habitude, ouvre le recueil des illuminations après le déluge. Le déluge renvoie, bien sûr, à la commune de Paris, mais plus largement à un embrasement souterrain, un embrasement cosmique. Et donc, même lorsqu'il évoque la révolution politique, elle est toujours inscrite dans une révolution plus générale, d'ordre aussi poétique, climatique, saisonnée, une révolution
climatique
du temps.
Climatique aussi?
Oui, climatique aussi, parce qu'il y a vraiment cette idée que on vise un tel bouleversement que c'est y compris le temps, les saisons qui doivent être affectées par cette poésie.
Il y a quelque chose de visionnaire, vous croyez, là?
Bon, c'était difficile, hein, peut-être un peu prophétique. En tout cas, il y a vraiment l'inscription de cette poésie dans les rapports humains, y compris les rapports avec la nature, ça c'est évident, oui.
Alors on peut interpréter évidemment de manière assez variée un certain nombre de poèmes de Rimbaud, comme par exemple celui-ci.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le ciel de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Une lecture par François Perrier de ce texte qu'on peut interpréter, Frédéric Thomas, de manière un peu antagoniste. Ça peut être à la fois un poème patriotique, ça peut être aussi un texte antimilitariste.
Oui, moi je penche plutôt pour la seconde lecture, mais ce qui m'intéresse dans ce poème, c'est qu'en deçà de cette lecture plus immédiate, on y repère la dynamique poétique de Rimbaud, en tout cas de nombre de ses poèmes, à savoir qu'il commence comme une chanson de la nature, un poème assez sensuel et lyrique, et qu'au fur et à mesure, quand on va parler de ses enfants malades, et qu'on approche de la fin, cette fin-là désenchante cette nature, la met à distance et invite à relire le poème sous une vision beaucoup plus critique. Et le tranquille qui pratiquement clôt ce poème fait un peu grincer cette nature et on voit déjà que même dans son rapport à la nature, il y a plus la possible contemplation que pouvait avoir Lamartine, par exemple. On est dans une nature qui est habitée par des morts, qui est dérangée par la guerre, qui est brutalisée. Et ce qui est le propre de la nature et le propre de la poésie elle-même, elle est située dans un monde qui la met de plus en plus à mal.
Donc c'est une attitude un peu romantique du poète qui va chercher dans des valeurs éternelles, la nature par exemple, comment dépasser la société industriello-marchande.
Oui, mais dans un romantisme révolutionnaire, parce que le romantisme avait tendance à idéaliser le passé, à chercher dans le passé des solutions à la société industrielle, aux problèmes soulevés par le capitalisme moderne.
Donc il n'est pas réactionnaire, Rimbaud, c'est ça ?
Oui, il va chercher dans le romantisme, il va faire un détour par le passé, mais il ne s'installe pas dans le passé. Il va chercher dans le romantisme toute une série de critiques du travail, de la nation, de l'industrialisation, de la science, mais pas pour idéaliser, par exemple, la religion ou d'autres formes communautaires, mais plutôt essayer de repasser par là pour essayer de réinventer une nouvelle forme qui soit vraiment nouvelle, donc vraiment qui aille vers l'avant.
Alors la politique aussi, chez Rimbaud, c'est la critique de ce qui est un petit peu de l'ordre de l'État bourgeois, de tout ce qui est le rapport à l'Église. Donc on le trouve dans cette critique plus que dans des choses qui seraient davantage visibles. C'est par un espèce de souterrain, de courant souterrain, que vous voyez la critique de la bourgeoisie. Et c'est en cela que pour vous, Rimbaud est politique.
Oui, en différentes manières. Je pense que d'une part, il y a une critique. Il faut se rendre compte du contexte très troublé dans lequel Rimbaud a vécu et a écrit. Donc, ses premiers poèmes datent de 1870, à l'heure où l'opposition républicaine à Napoléon III se développe et se radicalise. En juillet 1870, c'est la guerre franco-prussienne. Très vite, les défaites, puis l'échec, la chute de l'Empire, la République, l'occupation de la France, puis la Commune de Paris, jusqu'à son écrasement dans la semaine sanglante fin mai 1871, et ensuite la défaite. Donc, dans une période très troublée dans laquelle Rimbaud écrit, ses poèmes sont situés dans cette époque. Et donc, il y a à la fois une critique des institutions bourgeoises et religieuses, l'Église et l'État, mais aussi des institutions plus, on va dire, plus organiques, comme le travail, la raison, la nation, la science, y compris l'art va être critiqué par Rimbaud. Donc là, il y a déjà un aspect politique, mais encore une fois, il y a un aspect plus encore plus souterrain pour moi. C'est dans la manière dont il envisage la poésie, la manière dont la poésie doit être liée à la vie pour ressourcer, réinventer cette vie.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même une critique du kitsch bourgeois?
Oui, à la fois une critique du kitsch bourgeois, de cette cristallisation, crispation des bourgeois. C'est le poème à la musique où ces bourgeois bedaines écoutent la musique militaire, où c'est le rejet des assis. Donc il y a une critique du kitsch bourgeois, il y a aussi une critique des liens, et ce qui est assez novateur, entre la bourgeoisie et l'Église. Rimbaud ne les oppose pas, il y voit plutôt une convergence. Mais aussi une critique du romantisme de certains poètes qui vont essayer d'échapper au kitsch bourgeois à travers une théorie de l'art pour l'art. Mmh. Or, Rimbaud tente de dépasser, il ne cède ni à ce courant-là, ni au réalisme, il cherche une troisième voie.
Alors vous dites que Rimbaud voit une parenté entre la magie bourgeoise, entre guillemets, et l'imagerie religieuse.
Oui, c'est-à-dire que donc Marx, dans le manifeste du Parti communiste, disait que la bourgeoisie crée un monde à son image. Or, cette image, elle est ensorcelée. Donc, c'est une image qui renvoie à un écran, à toute une série d'émerveillements, de kitsch aussi, mais de kitsch qui peut être un peu bling-bling, contre lequel Rimbaud va s'élever. Donc, il y a dans sa poésie aussi une politique des images, de production des images, où il va chercher à créer d'autres enchantements, des enchantements qui ne soient pas captés, fixés sur l'Église et sur la bourgeoisie, mais des enchantements qui soient tournés vers une forme d'émancipation. Et donc, il y a véritablement une critique, une production d'images merveilleuses, mais qui est en même temps aussi une critique de certaines images, en premier lieu celle de la religion, mais de la manière dont ces images, ou de cette religion des images, est recyclée, reproduite dans une forme beaucoup plus moderne par la bourgeoisie.
Il faut détruire ces icônes, parce que ce sont de fausses icônes.
Il faut à la fois les détruire et réenchanter le monde. Et donc, on retrouve souvent cette dynamique dans les poèmes de Rimbaud. Christine Ross a parlé de réenchantement des enchantements, où on a ces deux formes, à la fois ces images merveilleuses, mais qui ne sont qu'entreaperçues, dans lesquelles Rimbaud ne se fixe pas, ne s'établit pas, et ce retour à un ici et maintenant, qui est marqué par une réalité, ce qu'il appelle la réalité rugueuse, une réalité beaucoup plus sombre, et prosaïque.
Et est-ce que vous avez en tête des poèmes en particulier où on le verrait bien?
Mais je pense Le bateau ivre, ou à travers, qui est un poème un peu emblématique, où Rimbaud évoque ce voyage à travers toute une série de merveilles, dit j'ai vu, j'ai senti, j'ai traversé, pour se terminer par la fin, par mais l'aube, les aubes sont navrantes, et si je regrette une eau, c'est la flash, ici le retour à l'Europe, aux anciens parapets, pardon, il y a la volonté que ce voyage-là, il est forcément interrompu. Il ne peut pas se poursuivre, se fermer sur cette évasion, parce que ce serait s'enferrer dans une beauté spectacle qui serait coupée de la réalité, de la vie quotidienne. Et donc, il y a un retour à ce désenchantement, non pas un désenchantement qui annule toutes les merveilles, mais qui les resitue, qui montre l'écart entre les possibilités de la poésie et une situation présente marquée en 1871, à l'été 1871, à l'heure où Rimbaud écrit Le bateau ivre, par l'écrasement de la Commune de Paris et le retour à l'ordre.
Un hydrolat lacrymal le lave, les cieux verts choux, sous l'arbre tendronnier qui bave au caoutchouc. Blanc de lune particulière, au pied à la ronde, entrechoquez vos genouillères, mais l'aileron. Nous nous aimions à cette époque, bleu l'aideron, on mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir tu me sacras poète, blond l'aideron, descends ici que je te fouette, en mangeron. J'ai dégueulé ta bandoline, noir l'aideron, tu couperais ma mandoline au fil du front. Ah, mes salives desséchées.
Arthur Rimbaud 2, chanté par Babix. C'est un poème mis en musique, en l'occurrence « Mes petites amoureuses », Frédéric Thomas. Vous avez terminé en évoquant la commune, juste avant cette pause musicale. C'est en effet le deuxième versant qu'il faut étudier après la critique de la bourgeoisie. La question de la commune. Alors, est-ce qu'il a vraiment participé aux événements de la commune? C'est déjà une question qu'on se pose. Est-ce qu'on a vraiment la réponse d'ailleurs?
Non, on n'a pas la réponse. On a des rapports de police qui évoquent cette participation, ainsi que des témoignages qui disent avoir vu Rimbaud au moment de la Commune de Paris sur place. On sait en fonction des dates, de toute façon, que s'il y a participé, c'est très peu de temps.
Parce qu'il y était à Paris juste avant.
Il y était juste avant, donc en janvier-février, il est à Paris. Il est déjà intéressé par les journaux pamphlétaires qui vont avoir un écho impressionnant au moment de la Commune de Paris. Puis il retourne à Charleville, il a les lettres dites du voyant qui sont écrites en mai. A-t-il été par après ou non, pas plutôt auparavant à Paris? En tout cas, s'il a été, pardon, c'est très peu de temps. Il faut rappeler qu'il a 16 ans, donc son implication physique dans la commune de Paris, si elle a eu lieu, elle a été minime. Par contre, ce qu'on sait par différents témoignages et par ses propres textes, c'est que c'était un chaud partisan, la commune de Paris.
Mmh. Alors il paraît qu'il aurait imaginé un projet de constitution communiste au moment de la commune
de Paris.
Oui, c'est
ce que son ami Ernest Delahaye livre, qu'il aurait... Alors est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça témoigne d'un enthousiasme de Rimbaud pour la commune de Paris, pour ce qu'elle portait d'espoir, de changement, de révolution, de bouleversement, et dont témoigne d'ailleurs ces lettres dites du voyant, parce que c'est au moment de la commune de Paris qu'il envisage ces nouvelles formes de poésie qui doivent correspondre à ces nouvelles formes politiques qui sont en train d'émerger à Paris.
Je me dois à la société, c'est juste, et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison, pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, pardon, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose, je verrai dans votre principe la poésie objective. Je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant? Jamais. Jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort. Être né poète.
La fameuse lettre du voyant, cette lettre envoyée par Rimbaud à Georges Isambard, le 13 mai 1871. On sait, Frédéric Thomas, que cette lettre est une profession de foi littéraire. Est-ce que c'est aussi une profession de foi politique?
Oui, dans le sens où, dans cette lettre, il dessine un sort analogue aux poètes, aux travailleurs. Tandis que j'écris... Les travailleurs sont en lutte, et si j'écris, c'est aussi en fonction, en rapport avec cette lutte des travailleurs.
Et quand il dit tant de travailleurs meurent, travailler maintenant, jamais, jamais, je suis en grève. C'est ça, finalement, les deux phrases qu'on peut extraire de cette lettre.
Oui, et c'est aussi donc il annonce un dérèglement, donc on ne peut plus fonctionner, écrire comme auparavant. Il faut trouver une écriture qui rende compte de cette lutte, et cette lutte, elle a lieu à la fois pour les travailleurs et pour les poètes. Et donc, c'est vraiment trouver cette forme nouvelle, cette poésie objective qui l'oppose à la poésie subjective non seulement de son ancien professeur, mais de l'ensemble des poètes qu'il a admiré jusque-là.
Alors ça veut dire quoi, poésie objective, et en quoi ça permet de changer la vie? On va revenir à ce terme de changer la vie plus tard.
Mais... Bon, alors il ne donne que quelques indications. En tout cas, c'est donc l'objectif, c'est d'arriver à l'inconnu, de trouver les formes nouvelles qui mènent à cet inconnu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il, quand il fait sa critique des différents poètes, la poésie subjective, c'est celle qui se laisse un peu embarquer, qui n'a pas d'auto-réflexion sur la situation de la poésie elle-même. Donc il faut une poésie qui, c'est le jeu est un autre, c'est aussi qui tienne compte aussi de ses effets dans l'ensemble, une poésie qui engage le corps et tout le corps, pas simplement la main ou la tête ou l'esprit, mais le corps tout entier, qui engage tous les êtres humains et qui mène à l'inconnu, qui ouvre une voie nouvelle à la connaissance, non seulement la connaissance, mais une vie poétique elle-même.
Alors il y a un certain nombre de textes qui ont des titres qui vous ramènent à la politique chez Rimbaud, ouvrier, barbare, guerre, soir historique, démocratie. Et vous vous étonnez au fond, Frédéric Thomas, que beaucoup de commentateurs ne se soient pas attardés sur ces titres-là et que l'idée d'un Rimbaud poétique ne soit pas quelque chose qui aille de soi finalement, notamment à l'université.
Oui, parce que quand on regarde le contexte dans lequel Rimbaud a vécu, quand on regarde de plus près ces mauvaises fréquentations qui sont Verlaine et toute une série de proscrits communards en France et à Londres, en France et en Belgique.
Il y a eu beaucoup de mauvaises fréquentations, mis à part Verlaine, par exemple.
Oui, parce que quand il, en fait, quand il voyage à Bruxelles puis à Londres, ils sont les exilés, les proscrits de la Commune de Paris constituent un peu le milieu naturel de leur pérégrination. Donc c'est Georges Cavalier dit Pipembois, qui est un étudiant qui a pris fait et cause pour la Commune de Paris, qui travaillait pour Jules Andrieux, qui était un des dirigeants communards à Londres, enfin qui est exilé à Londres, Eugène Vermersch. Verlaine va servir de facteur pour Lisa Garret, l'auteur de l'histoire de la Commune de Paris. Donc on voit que c'est dans ce milieu-là d'intellectuels déclassés communards dans lequel évoluent Rimbaud et Verlaine.
Poète et prolétaire, c'est la même chose à l'époque?
C'est pas la même chose, mais il y a cette frange très minoritaire d'intellectuels, qu'on va dénommer des intellectuels déclassés, qui écrivent dans la petite presse, qu'on appelle la petite presse, qui sont caricaturistes. Je pense à Jules Vallès, à Jeanne Vermeige, à Jules Andrieux, etc. Et qui, pour ce fait-là, vont être particulièrement attaqués par l'ensemble des intellectuels, parce qu'on va leur reprocher de trahir doublement l'art. D'abord, de trahir l'art en faisant de l'art vulgaire dans la petite presse.
La politique, c'est vulgaire.
C'est doublement vulgaire parce que c'est pour le peuple et c'est parce que ça prend en compte des questions politiques. Or, l'art doit s'élever au-dessus de ces basses questions vulgaires. Donc, il appartient à cette frange-là de tout un courant très minoritaire dans lequel on peut mettre aussi éventuellement Courbet, d'intellectuels de la petite presse, caricaturistes, pamphlétaires, etc. Or, si depuis quelques années, heureusement, ces dimensions-là sont, et notamment son rapport à la Commune de Paris, grâce à des travaux comme ceux de Steve Murphy, d'Yves Reboul, Christine Ross, sont mieux mises en avant. Mais je pense que jusqu'alors, du fait qu'il y avait une méconnaissance ou sous-estimation de ce qu'a représenté la Commune de Paris, sa répression, et aussi par rapport à un clivage qui fait qu'on estime que la poésie, sa beauté, pour être préservée, doit être déliée de toute question politique.
Et en même temps, Rimbaud, dans ses jeunes années, admire le Parnasse contemporain. C'est quand même aussi des adeptes de l'art pour l'art.
Oui, mais le Parnasse contemporain, déjà, est un peu un fourre-tout. Et un fourre-tout qui va clairement se briser au sortir de la Commune de Paris, où là, il va avoir un clivage très net, avec une partie d'entre eux qui vont être rejetés, Verlaine en premier lieu, et qui vont rejoindre un peu peu le cercle zutique, qui, parce que justement, ils n'ont face aux événements, la conception de l'art pour l'art n'était pas à la hauteur de la Commune de Paris, et que toute une série de poètes vont réévaluer cette question de l'art pour l'art. Et d'ailleurs, dans les lettres dites du voyant, Rimbaud parle de l'âme pour l'âme. On voit où il y a à nouveau une tentative de dépassement, d'ironie de cette question de l'art pour l'art, mais aussi de dépassement, non pas du côté du réalisme, mais du côté d'une forme nouvelle.
Alors, parmi les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec votre thèse, il y a Éric Marty, que d'ailleurs vous citez vous-même dans votre livre, et qui lui extrait ce vers « Qu'est-ce que pour nous, mon cœur, que les nappes de sang ?» Et il considère que c'est une façon de signer l'adieu lyrique de Rimbaud à la politique. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord l'un et l'autre ?
Mais je pense, parce que c'est une lecture biaisée, partielle de la poésie, qui est imbriquée dans des a priori très forts. Je pense que donc ce poème, c'est « Qu'est-ce que pour nous, mon cœur ?» met plutôt en scène une révolte des vaincus et l'impossibilité ou la situation très très désenchantée dans laquelle se trouve Rimbaud au lendemain de la Commune de Paris, dans du côté des vaincus, avec un espoir d'un changement qui s'éloigne de plus en plus, au point éventuellement de s'éteindre. Donc Éric Marty voit dans ce poème-là et dans toute une série de poèmes un adieu aux politiques qui était déjà programmé dans la poésie de Rimbaud, sinon dans toute poésie. Finalement, selon lui, outre après l'enthousiasme de la Commune de Paris, qui a peut-être perduré encore quelques semaines, Rimbaud revient alors à la vraie poésie, qui est une poésie déconnectée de toute question politique, et signale, marque cet adieu à la politique. Or, une lecture plus attentive au poème de Rimbaud, on voit que cette question-là, elle a été retransformée, mais elle n'a jamais été évacuée.
Et en même temps, si il y a de la politique dans les poèmes de Rimbaud, est-ce qu'elle n'est pas minoritaire malgré tout, même si elle existe? Est-ce que c'est la première chose que l'on doit voir chez Rimbaud? Ça n'est pas certain, si?
Non, mais c'est toujours une question un peu biaisée, parce qu'il y a toujours la tentative de dire, si on parle de politique, ça va être réduire la poésie de Rimbaud. Alors, il s'agit pas de ça, il s'agit de se rendre compte qu'il y a une question politique, mais dans un sens très large de... quels sont les rapports entre les humains, la manière dont on vit, quels sont les rapports avec la nature, quel est le rapport au travail, à la colonisation, à
l'oppression,
par rapport à la situation. Et ça, ces questions-là, elles irriguent la poésie de Rimbaud, mais encore une fois, ils sont pas détachables, ils sont inscrits dans une réflexion d'ensemble sur qu'est-ce qu'est être un poète dans la cité à la fin du 19e siècle en Europe.
Et on va continuer de parler de cela avec vous, Frédéric Thomas, en creusant encore davantage, juste après le regard sur Rimbaud toujours, de Pierre Glaude.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Pierre Glaude, professeur de littérature à l'Université Paris 4. Bonjour à vous, Pierre.
Bonjour, Mathieu.
Alors, vous vous penchez aujourd'hui sur le fameux mythe Rimbaud.
Oui, il me semble difficile de parler d'un tel poète sans passer par ce que Thiamble appelait le mythe de Rimbaud. Parce que il me semble qu'on est intimidé par cette aura qui entoure d'emblée ce poète de 15 ans, et que l'on a pris peu à peu l'habitude de présenter comme une sorte d'aérolite venu d'on ne sait où, comme s'il était hors de toute histoire et qui, mieux que d'autres poètes, Lautréamont, Mallarmé, même Artaud, a su aller, pour citer Baudelaire, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Or, il me semble que pour prendre la mesure de ce qu'a été Rimbaud, il faut au contraire déconstruire ce discours mythique en mettant au jour les circonstances particulières sur lesquelles il se fonde. Alors, vous en avez évoqué lors des émissions précédentes une, que tout le monde connaît, c'est le fait que ce poète précoce a ceci de singulier, qu'il a très tôt dit adieu à la poésie. Alors que la littérature tendait à se professionnaliser, il n'est pas devenu un écrivain de métier et il a choisi une autre vie de voyage et d'affaires. Puis, autre aspect tout à fait étonnant, il a cette autre particularité qu'il n'a pas commencé par où il était convenu de commencer quand on était un jeune poète, c'est-à-dire par publier. Publier un recueil de vers, ce que faisait, ce qu'on fait, Léon Valade, Albert Mérat, Paul Bourget ou encore Anatole France quand ils sont entrés dans la littérature. Et il est sorti de la littérature sans pour ainsi dire avoir rien publié, même si en 73 il publie Une saison en enfer en Belgique. Il le fait imprimer du moins, mais comme il ne paie pas l'imprimeur, l'ouvrage reste dans les caves de celui-ci. Donc, il faut bien voir que le public n'a connu son œuvre que bien après son éloignement.
Et grâce à Verlaine, en particulier.
Voilà, grâce à un certain nombre de personnes, Verlaine, les symbolistes, il ne faut pas oublier aussi sa sœur Isabelle et Paterne Berrichon, son mari. Et ceci avait un certain nombre de raisons d'occulter certains aspects de la poésie de Verlaine, dont en particulier sa dimension politique et aussi sa dimension érotique. Verlaine, à l'époque, dans les années 1880, était l'auteur de Sagesse, poète catholique, conservateur. Il tenait pas à ce qu'on insiste trop sur des aspects de sa vie qu'il préférait mettre sous le boisseau. Et il a donné de Rimbaud une image qui insiste davantage sur ses audaces esthétiques et l'énigme d'une poésie qui joue avec les limites de l'esprit et du langage. Quant à sa sœur Isabelle, c'est bien pire d'une certaine manière. Elle a inventé une chronologie de l'œuvre qui est tout à fait sujette à caution, qui privilégie l'image d'un Rimbaud mystique, qui accomplit sa vocation de poète dans les illuminations et qui se repent même, dans une saison en enfer, de son passé sulfureux avant de faire le choix du silence.
Bon, à son crédit, il y a quand même, et on peut le signaler ici, comment Isabelle Rimbaud raconte les derniers moments de la vie de son frère. Il y a un livre qui vient de paraître à ce sujet chez Manutius, justement présenté par Éric Marty, et qui est tout à fait intéressant. Je vous laisse poursuivre, Pierre.
Oui, Isabelle Rimbaud a bien le droit d'avoir sa vision de la poésie de son frère, bien entendu. Simplement, elle a alimenté de cette façon un mythe rimbaldien qui découle de toutes ces circonstances et qui est quand même fait d'un certain nombre d'omissions, de demi-vérités, de reconstitutions fictives et qui a permis d'intégrer à la littérature un poète qui ne s'intéressait plus à elle.
Alors comment rendre justice à Rimbaud en rompant avec ses fausses évidences ?
Alors, peut-être justement en le réintégrant dans l'histoire. Et dans l'histoire de la littérature, je pointerai trois aspects, si vous voulez. D'abord, Rimbaud, qui a été un élève surdoué et qui a tiré le meilleur parti de l'enseignement de la rhétorique, des humanités, est un poète savant, qui est nourri de littérature latine. On sait combien il s'est adonné au vers latin, qui connaît son Virgile, son Lucrèce, et qui maîtrise parfaitement l'art de la dispositio, et aussi toutes les potentialités figurales du langage, notamment celle de l'allégorie. Et justement, la question politique, même s'il y a très peu de poèmes qui sont effectivement politiques, par le biais de l'allégorie, il arrive à réintégrer, à travers toutes sortes de doubles langages, une dimension politique à des textes qui sont sous un halo d'obscurité. Alors ça, c'est un premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même le restituer à une tradition esthétique et politique qui est, grosso modo, celle du romantisme humanitaire, à la fois visionnaire et imprégné de messianisme dont il pousse l'eschatologie à la limite et qu'il met à l'épreuve aussi de ses désillusions. C'est aussi ça la question du politique, c'est la question des désillusions. Et puis, il y a aussi, dernier point, cette espèce de figure de prophète d'une bonne nouvelle affranchie de la morale chrétienne qu'il dessine. et qu'il porte à la fois dans une conjonction de la subversion sexuelle et de la subversion politique.
Est-ce que vous voulez ajouter un tout petit mot à cette chronique, Frédéric Thomas ?
Oui, je trouve que c'est très intéressant. Je pense que son rapport à Baudelaire, tel qu'il l'a décrit dans la lettre dite du voyant, exprime un peu ce rapport à ces traditions. Donc pour lui, Baudelaire est un dieu, un vrai poète. Mais il fait ce double correctif, encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste, et donc cela l'a empêché d'adhérer à une forme nouvelle. Et donc c'est le reproche qu'il fait à Baudelaire, c'est d'avoir, grosso modo, d'être dans un milieu trop artiste, rester dandy, et ne pas avoir rejoint la bohème, et cette bohème révolutionnaire, qui émerge, qui se développe au moment de la Commune de Paris. Donc on voit à la fois ce lien avec cette tradition, et cette volonté d'aller plus loin.
Merci beaucoup Pierre Glaude, et puis on vous retrouve tout de suite Frédéric Thomas pour la suite de cette émission sur Rimbaud Politique. Cette édition, son poème Solde où tout est à vendre, que vous allez nous commenter, Frédéric Thomas.
À vendre l'écorce sans prix, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance. Les richesses jaillissant à chaque démarche, solde de diamants sans contrôle. À vendre l'anarchie pour les masses. La satisfaction irrépressible pour les amateurs supérieurs. La mort atroce pour les fidèles et les amants. À vendre les habitations et les migrations, sport, féerie et confort parfait, et le bruit, le mouvement et l'avenir qu'ils font. À vendre les applications de calcul et les sauts d'harmonie inouïs. Les trouvailles et les termes non soupçonnés, possession immédiate. Élan insensé et infini, aux splendeurs invisibles, aux délices insensibles, et ses secrets affolants pour chaque vice, et sa gaieté effrayante pour la foule. À vendre les corps, les voix, l'immense opulence inquestionnable, ce qu'on ne vendra jamais. Les vendeurs ne sont pas à bout de solde. Les voyageurs n'ont pas à rendre leur commission de sitôt.
Est-ce qu'on est là dans une critique du capitalisme, selon vous, Frédéric Thomas, avec ce poème « Solde » ?
Oui, c'est un poème qui met en scène la dégradation marchande dans un mouvement de plus en plus expansif, de plus en plus accéléré, qui recouvre tout, y compris les élans insensés et infinis. La question qui un peu divise la critique, c'est est-ce que c'est une sorte de poème terminal qui montre la dégradation de tout, y compris de la poésie en marchandises, ou malgré tout, y a-t-il une fêlure à travers ces « nous ne sommes pas à bout de solde » et donc l'espoir encore que malgré tout, un poème puisse échapper à ce mouvement.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'opte pour cette fêlure, que malgré tout, dans la poésie de Rimbaud, il y a souvent une interruption d'un mouvement général qui ouvre un faible passage vers un ailleurs qui reste présent, même s'il est toujours menacé.
Alors, Marx arrive quand même par la bande dans votre essai, Frédéric Thomas. C'est plutôt un regard croisé que vraiment une lecture marxiste de l'œuvre de Rimbaud que vous faites là. Qu'est-ce qui vous permet finalement d'invoquer le grand penseur du Capital quand vous lisez Rimbaud ?
Mais bon, je le fais à partir d'une déclaration de 1935 des surréalistes qui, au moment de la rupture avec le Parti communiste français, il déclare « Transformer le monde », a dit Marx, « Changer la vie », a dit Rimbaud, « Pour nous, ces deux mots d'ordre n'en font qu'un ». Et donc, c'était qu'est-ce qui fait que les surréalistes aient fait se rencontrer ces deux noms de personnes aussi différentes que Marx et Rimbaud ?
Qui n'ont a priori rien à voir.
Qui n'ont a priori rien à voir. Et en fait, les surréalistes ont cette double intuition qu'il y a dans la poésie, dans les poèmes de Rimbaud, une charge révolutionnaire, aussi importante, voire plus puissante encore que les théories politiques, et que cette charge révolutionnaire, d'une manière ou d'une autre, communique à des correspondances avec ce que a été cherché du côté de la philosophie révolutionnaire chez Marx. Alors, en étudiant un peu plus en détail cette déclaration, on se rend compte d'abord qu'il y a des coïncidences de lieux et de dates étonnantes, puisque lorsque Rimbaud et Verlaine sont à Londres, ils y sont en même temps que Marx. Ils fréquentent donc Jules Andrieu et Eugène Vermeersch, qui, eux, ont été en contact avec Marx. Verlaine s'inscrit, grâce à Jules Andrieu, dans le cercle d'études sociales, qui est un cercle qui regroupe les dirigeants communards, un cercle qui donne lieu à des conférences auxquelles Verlaine assiste, dont on sait que Marx a participé. On ne sait pas si Rimbaud y était aussi. Et autre dernière coïncidence, Rimbaud et Marx ont passé des heures, voire des jours, à la bibliothèque du British Museum.
Donc, même si rien ne dit qu'ils se soient parlé,
ni qu'a priori ne se sont pas vus ni reconnus. Mais il y a quand même cette coïncidence de lieu, de moment. Là où il y a plus de correspondance, c'est dans la manière d'avoir voulu réinventer la poésie et la philosophie. Donc il ne s'agit pas simplement d'interpréter le monde de différentes manières, de le chanter, mais aussi de le changer et de le transformer. Et donc une volonté de prendre en compte une parole, une pensée qui soit fixée sur l'heure du réveil et de la transformation. Et donc qui implique non pas de renoncer à la philosophie ou la poésie, mais de véritablement les réinventer pour être à la mesure de ce mouvement expansif que constitue le capitalisme et qui couvre non seulement de plus en plus tout l'espace, mais aussi tous les êtres et tous les rapports sociaux. Et donc là, il y a cette volonté de radicalité, de revenir aux racines de l'homme et de la poésie et de la pensée chez Rimbaud et chez Marx.
Et pour cela, il faut avoir un autre rapport au temps que le temps du capitalisme. Et vous recensez un certain nombre de poèmes où Rimbaud parle justement de ce rapport au temps. Est-ce que vous en avez en tête, là, qui vous viennent ?
Mais il y en a beaucoup, c'est difficile de, mais c'est le, on se rend compte en lisant, par exemple, Une saison en enfer ou d'autres, l'importance de l'aube, de l'éveil, de cette heure où les choses ne sont pas encore fixées, ne sont pas encore figées, ou ne sont pas encore cristallisées dans des institutions et tout est encore possible, où il y a les êtres sont libres, et c'est ce retour à ce réveil, à cet éveil, à cette heure incertaine des possibles à laquelle Rimbaud invite à revenir.
Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations, il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre. Ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous nous le rappelons, et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne sa promesse, sonne arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époque-ci.
C'est le poème intitulé « Génie », lui, ici par Jacques Gamblin. C'est le dernier poème des Illuminations. Et parce qu'il est placé à cet endroit en particulier, pour vous, il a un sens spécifique. Il donne une vision du monde de Rimbaud. Enfin, en tout cas, on peut imaginer que, étant le dernier poème, il a une charge particulière. Et qu'on peut l'analyser comme tel.
Oui, il donne une vision particulière. Après, il faut rappeler que les Illuminations, on n'a pas l'ordre exact des textes. Donc, traditionnellement, on le place à la fin. Mais les habitudes font, la tradition font que aujourd'hui il semble avoir cette place naturellement, parce que c'est aussi un nouveau départ, c'est un appel à une forme, à un nouveau Christ rédempteur, mais qui à l'encontre du Christ de l'Église catholique n'appelle pas à des agenouillages, et que à la fin il faudra renvoyer pour recouvrer cette régénération des êtres et du monde, et se la réapproprier, qu'elle ne dépende pas d'un être extérieur, aussi divin soit-il.
Donc, critique du temps tel que organisé par la société capitalisme. Est-ce qu'il y a une critique de l'économie aussi en tant que telle, selon vous ?
Mais il y a une critique radicale de la colonisation, de la manière dont la société marchande arrive non seulement en colonisation effective en Afrique, mais aussi au sein de la société occidentale elle-même, de la manière dont elle colonise de plus en plus les rapports entre les êtres, y compris les corps, y compris les esprits, y compris les poèmes, comme on le voit dans Solde. Donc il y a véritablement une colonisation à la fois marchande, mais aussi l'idée de travail, le fait que tous les êtres humains sont mis à l'école du capital et doivent intégrer ce rapport au temps, ce rapport au travail, ce rapport à l'efficacité, à la productivité, qui rend impossible toute poésie.
Et en même temps, est-ce que Rimbaud, ça n'est pas cet occidental qui part en Afrique, en Abyssinie, pour y faire du commerce d'armes et de café aussi, mais enfin quand même surtout d'armes?
Oui, enfin, il y a un paradoxe Rimbaud évident, parce qu'il offre une critique radicale de la colonisation, et par après, il se retrouve en Afrique, dans le Harar, au Yémen, puis dans l'actuelle Éthiopie. Après, il y a quelque chose de pathétique, parce qu'on se rend compte qu'il s'ennuie énormément, qu'il ne croit pas au bonheur, qu'il ne croit absolument pas à la mission civilisatrice des colons. Il les trouve aussi bêtes, aussi ennuyeux, sinon plus que les personnes locales. Il apprend le Coran et s'habille comme les musulmans sur place. Donc il y a une forme de désespoir, et même lorsqu'il est là-bas, on ne trouve pas dans ses textes une valorisation de cette colonisation, que ce soit sous la forme d'une civilisation, sous la forme de l'éducation ou tout. Non, c'est une forme de désespoir absolu. Et s'il est là-bas, c'est il se baigne beaucoup plus dans la vie telle que les locaux la vivent que telle que se l'imaginent les colons.
Et sur le fait qu'il soit lui-même commerçant?
Oui, mais alors c'est aussi un commerçant. On discute encore aujourd'hui de son efficacité, parce qu'il arrive quand même à amasser une certaine somme d'argent.
En tout cas, il est obsédé par l'argent.
Il est obsédé par l'argent, mais dans une forme totalement défaitiste, où il n'arrive jamais à en avoir assez. Ses projets sont de plus en plus utopiques et lointains, de plus en plus irréalistes. Et finalement, c'est il est là avec sa ceinture d'or, coincé au milieu de nulle part, avec aucune perspective et aussi aucun. Les projets de se marier sont de plus en plus.
Oui, parce qu'il y a ça aussi qui est un petit peu étrange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il aspire à avoir une vie normale.
Donc, une vie bourgeoise.
Il a combattu durant son adolescence, justement, cette vie bourgeoise.
Qui reste là comme un espoir, mais un espoir en suspens, et parce qu'il est aussi contredite par sa vie de tous les jours. Le fait qu'il ne veut absolument pas revenir en France, il ne veut être libre de marcher par la nature, dans des contrées peu ou pas explorées. Et donc il y a cette contradiction totale entre cette tentative un moment d'imaginer un retour à une vie beaucoup plus normale et sa vie de tous les jours, qui aussi désespérante soit-elle pour lui, est la seule envisageable.
Donc il ne faut pas chercher à résoudre les contradictions, il faut accepter que le message politique sous-jacent dans sa poésie n'est pas forcément lié à la biographie de l'homme.
Elle est liée à sa biographie tant qu'il écrit, pour moi. Après, ça reste une question beaucoup plus énigmatique, mais en tout cas, je pense que Rimbaud a été aimé et lu non seulement pour ce qu'il a écrit, pour ses poèmes, pour la manière dont il les a écrits, mais aussi pour le nœud qu'il a fait entre ses poèmes et sa vie entre 1870 et 1875.
La vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et souvent, il s'emporte contre moi, moi, la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. Il dit, je n'aime pas les femmes. L'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté. Il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage, aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes avec des signes du bonheur dont moi j'aurais pu faire de bonnes camarades, dévorées tout d'abord par des brutes sensibles comme des bûchers. Je l'écoute faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Je suis de race lointaine, mes pères étaient scandinaves. Ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang, je me ferais des entailles partout le corps, je me tatouerais. Je veux devenir hideux comme un mongol. Tu verras, je hurlerai dans les rues, je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux, je ramperai et me tordrai sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang partout, jamais je ne travaillerai. Plusieurs nuits, son démon me saisissait, nous nous roulions, je luttais avec lui. Les nuits, souvent, ivre, il se poste dans des rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. « On me coupera vraiment le cou, ce sera dégoûtant !» Oh, ces jours où il veut marcher avec l'air du crime. Parfois, il parle, en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait pitié d'une mère méchante pour les petits-enfants. Il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. Il feignait d'être éclairé sur tout. Commerce, art, médecine, je le suivais. Il le faut.
Compagnie des œuvres sur France Culture avec ce poème Vierge folle, portrait de Verlaine dans Une saison en enfer, poème où figure donc cette phrase. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Une phrase que vous avez relevée, Frédéric Thomas.
Oui, parce que c'est une très belle phrase qui montre à la fois l'ambition démesurée de cette poésie et en même temps son incertitude. Il ne dit pas qu'il a trouvé la clé de ce changement de la vie. Il fait en chercher, il cherche la formule et le lieu pour justement changer cette vie.
Et changer la vie, c'est peut-être aussi changer l'amour. Peut-être qu'il a essayé, Rimbaud, de changer la vie avec Verlaine, mais on entend que tout n'a pas été aussi facile.
Oui, donc dans ce même texte, il parle de réinventer l'amour. Je pense qu'il y a un lien évident. Donc il y a c'est une poésie qui engage tous les êtres et l'être entier, y compris dans son corps. Il y a cette relation amoureuse, passionnelle, homosexuelle entre Verlaine et Rimbaud, où l'enjeu est aussi de changer les rapports amoureux, mais qui vient buter sur les difficultés, sur la différence d'âge, sur la misère, sur la défaite, la difficulté de publier. Mais il y a l'un des enjeux principaux de se changer la vie, c'est une vie au quotidien, et donc d'abord et aussi dans ce qu'elle a, dans les rapports entre les êtres, dans l'amitié, dans l'amour, dans la sensualité des corps.
Est-ce qu'il dit que c'est la norme sociale, tant dénoncée par ailleurs, qui lui empêche de changer l'amour, par exemple ?
C'est la norme sociale, mais c'est l'ensemble des institutions. Il y a une convergence d'institutions qui enferment les femmes dans un rôle, les hommes dans un autre, les poètes c'est dans encore un autre. C'est une division du travail qui empêche d'arriver à cet inconnu, qui fixe les personnes dans un connu de plus en plus cantonné, qui leur permet pas d'être libres et de s'épanouir et d'atteindre cette harmonie. Quand Rimbaud parle d'un dérèglement raisonné de tous les sens, il le fait au nom de, dans l'ambition d'atteindre un réglage supérieur des rapports humains.
Alors il y a un autre croisement après celui de Marx, hein, que vous avez commencé déjà à évoquer, Frédéric Thomas, c'est le croisement entre Rimbaud et le surréalisme. Celui-là est quand même beaucoup plus évident. Breton a clairement revendiqué sa filiation avec Rimbaud. Est-ce que la question de l'engagement y tient sa place, la question politique y tient une place hein?
Oui, même une place centrale. Donc, dans le manifeste de 1924, le manifeste du surréalisme, Breton dit Rimbaud est surréaliste dans la pratique et ailleurs. Et alors, ailleurs, c'est-à-dire en dehors de l'art et des livres d'art, des expositions, et dans la pratique, dans le fait de pratiquer la poésie. Or, on constate que l'engagement des surréalistes au niveau politique, d'abord, contre la guerre coloniale au Maroc en 1925, elle se fait à partir de questionnements, d'une étude, d'une appréhension de la poésie de Rimbaud. Donc c'est ça aussi, c'est un engagement très très particulier, parce que c'est en se posant des questions poétiques avec et à partir de Rimbaud qu'ils vont être amenés à poser des questions politiques.
Et en même temps, le même Breton, dans le second manifeste, juge plutôt coupable Breton de ne pas avoir rendu, je le cite, tout à fait impossible des interprétations catholiques, conservatrices, que Claudel a fait, par exemple, de Rimbaud.
Oui, parce que l'époque du second manifeste, les surréalistes sont de plus en plus sous pression. Il y a une forme d'orthodoxie qui se discute tant au niveau politique que poétique. Et Rimbaud est de fait accusé d'avoir permis certaines interprétations, notamment religieuses, de Claudel. Or, donc, Rimbaud va subir une éclipse de courte durée, parce que très vite, les surréalistes vont revenir à Rimbaud.
Est-ce que précisément, c'était vraiment le souci de Rimbaud qu'on puisse faire ou ne pas faire des interprétations politiques de son œuvre? Est-ce que on ne peut pas imaginer que il s'en moquait complètement?
Non, il s'en moquait pas, mais je pense qu'il y a, parce qu'il est dans ses poèmes, il y a la volonté aussi de produire certains effets des effets discordants, des effets de réveil, des effets de des interruptions, d'amener le lecteur, la lectrice à repenser, à relire, à sentir l'ironie, la fêlure, les voies ouvertes. Mais de fait, dans ces poèmes, si toutes les interprétations ne sont pas possibles, un certain chant est possible, parce qu'il ouvre des voies à une forme d'incertitude sur... on voit bien l'enjeu de certains poèmes, mais leur interprétation demande autre chose qu'une lecture, elle demande un parti pris, demande de s'engager dans ses poèmes, dans la poésie.
Est-ce que Rimbaud est un vaincu, selon vous, ou est-ce que Rimbaud est au contraire un grand vainqueur?
Pour moi, c'est un vaincu, mais ça ne veut pas dire qu'il était défaitiste. C'est-à-dire, dans Une saison en enfer, à un moment, il fait dialoguer les philosophes lui disent « ne soyez pas un vaincu ». Mais Rimbaud, et c'est sa fidélité, je pense, au cours de toute sa vie, est toujours resté du côté des vaincus de l'ordre moral qui s'est imposé avec l'écrasement de la Commune de Paris.
Merci beaucoup Frédéric Thomas pour votre analyse d'un Rimbaud politique. Pour en savoir davantage, on peut se procurer votre livre Rimbaud, Révolution, publié aux éditions de L'Échappée.